Entre les lignes, c'est un podcast réalisé à l'occasion de la dernière édition de Cancade Vercors. Pendant 5 jours, Radio Royan Vercors a installé son studio mobile sur le camp de base de ce festival dédié à l'escalade et à la highline, situé à Pont-en-Royan. On s'est penché sur ce qui se joue aujourd'hui dans nos pratiques. C'était l'occasion de se poser ensemble des questions qui peuvent gratter et surtout d'échanger sur ce qui nous anime. Cinquième épisode, dans un format qui s'éloigne des discussions radio, puisqu'il s'agit d'une table ronde que Tom a organisée autour de cette question. Faut-il politiser notre pratique de l'escalade ? On y discute de la performance en grimpe et de sa critique, de l'accessibilité sociale de l'escalade et des dynamiques de genre, et du rapport aux institutions publiques. Autour de la table, il y avait Bastien pour l'association CLIP, qui travaille au reconventionnement des falaises du Royan-Vercors, Christelle pour l'association Amasa Climb, qui organise des sorties grimpe avec des personnes en situation de difficulté sociale ou de handicap, Sophie Berthe, grimpeuse et activiste, et Antoine Le Ménestrel, autour de son livre « Folambule », qui revient sur la pratique de la danse escalade.
Eh ben, merci d'être là. On a à peu près une heure et demie ensemble. Et au début, on va discuter, faire une table ronde entre nous pendant 45 minutes. Et après, ouvrir aux questions. Donc là, vous serez amenés à échanger. Il y a un petit micro sur la table ronde du milieu. Et n'hésitez pas à prendre le micro pour poser toutes vos questions. Moi, quand j'ai proposé cette conférence et que je disais « Faut-il politiser notre pratique de l'escalade ?», les gens, ils me disaient « Politiser, je comprends pas, c'est quoi le rapport avec la grimpe ? Politiser dans quel sens ?» Et donc, pour aujourd'hui, politiser, on l'entendra dans le sens politique, le rapport à la société, pas aux partis politiques, mais plus comment notre pratique de la grimpe, sa critique, et puis aussi penser des alternatives, nous permettre de repenser nos modes de vie. Voilà, tout simplement. Et donc aujourd'hui, on a autour de la table Bastien, au bout de la table, de l'association Amasa Climb. Amasa Climb, CLIP.
C'est pas moi.
Christelle, de l'association Amasa Climb. Antoine Le Ménestrel. Et Sophie Berthe, qui est grimpeuse et activiste. Voilà, la question de politiser, elle est large, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est concentré sur quelques thématiques qui sont la performance et la compétition en grimpe, sa critique et les alternatives, un rapport seulement basé sur la performance. Ensuite, plus un volet social, donc l'accessibilité sociale de la grimpe. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de diversité autour de cette table ronde. Et notamment les dynamiques de genre. Et la troisième thématique aussi, forcément, vu qu'on parle de politique, c'est le rapport aux institutions publiques, rapport de coopération conflictuelle, voilà. Et la première question que j'avais envie de vous poser, c'était que vous vous présentiez et puis surtout que vous me partagiez qu'est-ce qui vous anime, vous, personnellement, dans la grimpe. Je ne sais pas, Bastien, si tu as envie de commencer ou quelqu'un d'autre.
Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Bastien. Je suis là pour porter la voix de CLIP. CLIP, c'est le collectif pour le libre partage des parois d'escalade du Royan-Vercors. Et c'est une asso qui est née l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises, pour essayer de tirer la couverture vers nous et de faire en sorte que toutes les falaises qui avaient été interdites et qui, pour la plupart, le sont toujours, qu'on puisse les réouvrir, les falaises du Royan, du coup, autour de nous, les falaises où vous avez peut-être grimpé cette semaine. Voilà. Et après, moi, je pense que ça va être compliqué pour moi de différencier quand je parle de CLIP et quand je parle en mon nom. Et du coup, je pense qu'il faut quand même que je dise deux, trois trucs. Enfin, je vais avoir du mal à faire des fois à me différencier entre les deux, donc il ne faudra pas hésiter à me le dire. Et pour ajouter du contexte et dire d'où je parle, moi je viens des milieux populaires plutôt, et j'ai quand même de la sympathie pour les idées anarchistes. Voilà.
Et qu'est-ce qui t'anime dans la grimpe ?
Qu'est-ce qui m'anime dans la grimpe ? Plutôt une dynamique gestuelle, le mouvement, les sensations gestuelles, pour résumer.
Ok, merci.
Donc moi, je représente l'association Amasa Climb. C'est une association toulousaine qui a été créée en 2020 par du coup Mathilde Becerra, qui est une ancienne compétitrice de haut niveau, qui a fait partie pendant plus de 10 ans de l'équipe de France, et un collectif de moniteurs. Voilà, donc cette association, elle vise à rendre la pratique de l'escalade accessible à tous, mais surtout aux personnes en difficulté. Donc que ce soit des difficultés d'ordre social ou des handicaps physiques et ou mental. Voilà, donc on a un public très très diversifié. Ça peut être des jeunes issus de la protection de l'enfance. Ça peut être des migrants. On a un projet très fort avec les migrants, avec des jeunes de quartier. Ensuite, c'est pas une liste exhaustive, quoi. On est ouvert à toute proposition. Voilà. Et ce qui m'anime à moi dans l'escalade, c'est maintenant le plaisir. Moi, j'ai découvert l'escalade sur le tard, vers un peu plus de 30 ans. Il y a 30 ans. Et du coup, je me suis tout de suite sentie dans une communauté qui me ressemblait. Ce qui m'attire, c'est en fait aussi la diversité de cette pratique, quoi. Ça va être, physique, mais aussi technique, avoir des compétences en équilibre, en souplesse. Et puis aussi, ce que j'aime énormément, c'est les manips, quoi. Aussi, tout ce qui est matelotage, etc. Puis aussi un sport quand même qui est en pleine nature. Voilà, donc pour tout ça, c'est un sport où j'ai eu un coup de foudre instantané et qui depuis anime ma vie.
Merci.
Bonsoir, je suis Antoine Le Ménestrel. Mon père grimpait, ma mère grimpait et moi, je grimpais dans le ventre de ma mère. J'ai jamais commencé à grimper. Et j'ai participé à l'invention de l'escalade libre dans les années 80. La façon dont on grimpe aujourd'hui, c'est une pratique qui s'est inventée. Donc depuis, j'essaye sans arrêt de réinventer ma pratique de l'escalade. Escalade écologique, escalade givrée, escalade autonomique, escalade poétique, danse escalade. Voilà, ce qui m'intéresse, ce qui m'anime, c'est de réinventer ma pratique de l'escalade sans arrêt. C'est une pratique culturelle et donc... Non, je ne vais pas aller plus loin dans le... Je vais commencer.
Merci.
Je m'arrête là.
Bonjour à tous et à toutes. Moi, du coup, j'ai été présentée comme Sophie Berthe, grimpeuse et activiste. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, je vais un peu remettre du contexte aussi par rapport à ça. Moi, je viens du milieu de l'escalade aussi. J'ai grandi dans une famille de grimpeurs, de grimpeuses. Je suis peut-être la seule grimpeuse puisque j'ai deux grands frères, donc finalement je suis la seule grimpeuse dans la famille. Et j'ai arrêté, recommencé, parce qu'il y avait des choses qui me dérangeaient dans le milieu de l'escalade. Et quand j'ai recommencé de manière plus intense il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'en fait ce qui me dérangeait c'était les nombreuses inégalités sociales qu'il y avait dans le milieu de l'escalade, et notamment liées aux dynamiques de genre. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de militer sur mon compte Instagram et puis après de créer des actions à but féministe dans la vraie vie. Donc c'est pour ça que je dis que je suis activiste et voilà.
Et qu'est-ce qui t'anime dans l'escalade aujourd'hui ?
Eh bien justement, depuis que j'ai recommencé, que j'ai commencé à militer et à, sur le sujet du féminisme au sein de l'escalade, j'ai pu retrouver un équilibre, un nouvel équilibre dans ma pratique de l'escalade, et c'est comme ça que maintenant je vis sereinement ma pratique de l'escalade. C'est en militant et en faisant de l'activisme. Et donc voilà, je crois que c'est ça qui m'anime, c'est les dynamiques sociales au sein de l'escalade.
Ok. Deuxième question, certains y ont déjà un peu répondu, mais quand je vous ai invité, je vous ai proposé cette thématique de « Faut-il politiser notre pratique de l'escalade ?» Vous, qu'est-ce que vous entendez par « politiser notre pratique de l'escalade » et en quoi votre engagement est politique ? Je ne sais pas qui veut commencer. Bastien ?
Oui, moi je peux commencer. Moi, ça va être assez vite résumé. Je pense que oui, il faut politiser notre pratique d'escalade ou ailleurs. La politique, elle est partout autour de nous, dans chacune de nos actions. Et pourquoi je pense ça ? Parce que je considère qu'à partir du moment où on appartient à une minorité sociale, qu'on est des personnes racisées, des femmes, ou même qu'on on est victime de domination, ça peut être économique, on appartient... au milieu populaire, et ben en fait, on est obligé de se politiser par voie de fait pour essayer de retrouver un peu d'égalité dans nos relations, pour retrouver plus d'égalité autour de nous.
Alors ben, pour nous, pour Amasa, ben, on est complètement dans le thème, oui, parce que ben, nos actions sont faites pour rendre l'escalade accessible au plus grand nombre, mais surtout à ceux qui n'ont pas la facilité de pouvoir y accéder. En fait, on crée des passerelles entre ces personnes qui n'ont pas, en fait, soit qui ont envie, mais qui ne savent pas comment, soit qui n'y pensent même pas. Et en fait, on rend accessibles les salles. Dans un premier temps, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est soit de les approcher, ensuite de pouvoir leur donner des cours dans des salles, et ensuite de les amener en extérieur une fois qu'ils sont plus à l'aise avec la pratique. Donc oui, au niveau nous, c'est plus un engagement social. Et en fait, oui... nos valeurs, en fait, c'est l'inclusion, la mixité, la tolérance. En fait, on se sert de l'outil de l'escalade comme quelque chose de pédagogique pour véhiculer des valeurs dans le but, en fait, d'apporter un bien-être émotionnel, physique aux personnes.
Et est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça ressemble une sortie, toi ? Qu'est-ce qui te marque dans les événements que vous organisez ?
Moi, je suis surtout sur Grimpe sans frontières, qui est un projet pour faire grimper des migrants. Et donc, c'est une association qui nous amène ses bénéficiaires. Et en fait, la première chose, c'est déjà de partager des moments avec eux, de leur apporter de l'évasion. Et en fait, ce qui m'a marqué tout de suite, c'est toutes ces personnes qui ne se connaissent pas, qui ne parlent pas la même langue. En fait, on arrive à communiquer et en fait, il y a beaucoup de sourires, de rires, d'échanges, beaucoup d'entraide et de solidarité. J'ai rarement vu en fait cette entraide et cette émulation autour de ce sport, la gratitude qu'ils ont envers nous aussi de en fait leur offrir cette opportunité. Voilà, et c'est tout âge, tout horizon, et on a eu des retours quand même assez incroyables, quoi, de personnes qui ont alors on ne s'intéresse pas trop à leur parcours, hein, vraiment le but c'est l'inclusion. S'ils nous en parlent, bien sûr, on les écoute avec bienveillance, mais après, on les traite comme tout le monde. Et en fait, c'est ces retours et ce partage. Et finalement, on en a beaucoup d'émotions de juste voir certains qui n'arrivent pas déjà à monter sur deux prises et qui, à la fin de plusieurs séances, arrivent jusqu'en haut du mur et où tout le monde l'applaudit parce qu'il arrivait en haut du mur, quoi. Et c'est surtout ça qui m'anime dans l'escalade, en fait. Ouais.
Merci.
J'aimerais rebondir un peu sur la question pourquoi faut-il politiser nos pratiques de l'escalade. Sur le coup, je rejoins beaucoup ce que dit Bastien. À partir du moment où les différents systèmes oppressifs, par système oppressif, j'entends le système colonial, le système patriarcal, le système capitaliste, à partir du moment où ces systèmes ont une influence sur notre pratique de l'escalade, il est important de politiser nos pratiques. Et il est important d'essayer de lutter contre ces systèmes d'oppression. Voilà.
Pour moi, de toute façon, la pratique, elle est culturelle, elle est politique, déjà, notre pratique de l'escalade. Là, telle qu'on la pratique, ça s'est appelé, dans les années 80, ça s'est appelé l'escalade libre. L'escalade libre, je fais un tout petit peu d'histoire, dans le sens où, avant les années 80, on grimpait en tirant au clou, en s'aidant de la corde, en mettant des étriers pour pouvoir grimper. C'était le sommet qui était le plus important. Le sommet à tout prix. Et dans les années 80, il y a eu un retour à la nature, il y a eu un retour du rapport du corps avec les éléments. Hein, beaucoup de pratiques se sont développées avec l'air, l'eau, la neige, et aussi avec la pierre. On a rapproché le corps de la pierre. On a enlevé le matériel pour pouvoir grimper. On venait vu grimper avec son corps. C'est pour ça que ça s'appelle l'escalade libre. C'est libérer des artifices. D'accord ? Donc déjà, ça, c'est une démarche qui s'inscrit dans un mouvement social et culturel du retour à la nature, déjà initié dans les années 70. Donc l'escalade libre naît déjà de ce mouvement-là. Et pour aller un petit peu plus loin, on a libéré l'ascension. On a libéré que l'ascension du matériel. Parce que la plupart des grimpeurs redescendent avec la corde. Pour vous dire encore que là, cette pratique que l'on a libérée, c'est aussi une pratique idéologique par rapport à notre société de la croissance. En haut, c'est bien, plus haut, c'est mieux. Hein, plus haut, plus loin, plus vite. Bon, ils ont rajouté ensemble. Mais on est dans cette idéologie-là de la croissance. Eh bien, l'escalade libre est née aussi de cette idéologie-là. On va au sommet et après, on redescend comme des gros sacs sur la corde. Pourquoi ? Ben, c'est purement idéologique. Pourquoi on ne désescalade pas ? Il faut réinventer notre pratique. Il faut continuer à libérer l'escalade. Il faut libérer la descension. On a libéré l'ascension, il faut libérer la descension, c'est-à-dire le retour. C'est un voyage. On sait bien que un bon grimpeur est un grimpeur qui rentre à la maison. Pourquoi ne pas enlever une première ascension ? Si on est arrivé au sommet, on fait une première ascension. Mais non, peut-être qu'une première ascension d'une montagne ou d'une voie d'escalade, entre autres d'une montagne, c'est de faire le sommet et de rentrer vivant en bas. On pourrait revoir l'histoire de la montagne et de l'histoire de l'alpinisme rien qu'en repensant cette façon de voir. Donc c'est pour ça que pour moi c'est éminemment politique. Il faut qu'on continue à réinventer notre escalade.
Merci Anton. J'ai l'impression que parler de performance et de compétition, c'est une bonne porte d'entrée aussi pour politiser notre pratique. Antoine, dans ton livre, tu témoignes de ton expérience et de comment tu as vu naître les premières compétitions. Du coup, je vais lire un petit passage. Le souhait d'organiser des compétitions d'escalade ne vient pas de nous, grimpeurs, mais des fédérations, des magazines, des sociétés de matériel. La société, tel un bulldozer, se doit d'intégrer notre pratique marginale, la compétition et son moyen. Est-ce que toi, tu peux revenir sur cette période et puis de comment tu as essayé avec d'autres de proposer des alternatives ou en tout cas, comment ça s'est passé ?
C'est vrai que je fais juste pour parler un petit peu, je fais une grande différence entre avoir l'esprit compétitif qui est vouloir être meilleur que l'autre et l'esprit d'émulation où c'est l'autre qui m'aide à être meilleur. Moi, je considère que j'ai ces deux états d'esprit en moi. Je renie pas mon esprit compétitif. Par contre, la compétition, c'est la mise en scène de cet esprit pour en faire un événement avec des règles qui sont imaginaires. Donc, c'est un spectacle, la compétition, qui met en scène la recherche du meilleur. C'est culturel. La compétition, les règles, elles ont évolué en fonction des passages télé, en fonction du passage aux championnats du monde, des coupes, des Jeux Olympiques. Les règles ont évolué avec des choses qui sont extérieures, même à la pratique. Et la pratique de la compétition, elle est née de l'escalade libre, une pratique qu'on était en train d'inventer, dont on se faisait déposséder pour avoir des meilleurs, avoir de l'argent, de la notoriété, du star system. Donc, ce rapport-là, oui, en effet, au début, je me suis opposé à l'apparition des compétitions en 85. Ça a reculé d'un an. Et en 86, j'ai ouvert la première compétition sur mur artificiel à Vaux-en-Velin. Un petit peu d'histoire, 1986, mars 86. Donc les compétitions sur mur, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Hein, c'est il y a 22 ans. Un peu plus.
Oui. Le temps est passé.
J'ai oublié. Mais c'est pour vous dire que... voilà, après, quand la compétition est arrivée, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Tous mes copains allaient faire de la compète. Alors, je me suis dit, autant que les voies d'escalade elles soient le mieux possible. Donc, je suis devenu ouvreur de voies pour les compétitions d'escalade. Et en fait, le fait d'assumer ce paradoxe que j'avais en moi... Eh ben, ça m'a révélé artiste aussi. Parce qu'être ouvreur, c'est tracer des prises, c'est tracer des mouvements avec des prises, des intentions dans le mouvement, révélées par des compétiteurs, devant des spectateurs, avec une cordée émotionnelle. Et donc, je me suis senti dramaturge, chorégraphe. Et de là, après, j'ai commencé une nouvelle vie.
On aura le temps d'y revenir après. Sophie ? J'ai l'impression que aussi dans ce que vous faites avec les sorties grimpe entre femmes, il y a aussi cette idée-là de repenser la performance. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe et puis en quoi ces sorties grimpe entre femmes te semblent nécessaires ?
Ouais. Par rapport à la performance, moi j'ai envie de faire un petit point aussi sur le fait que la performance féminine, elle a beaucoup moins d'histoire que la performance masculine. Dans le sens où, là j'ai été chercher dans mes petites notes, je vais retrouver la date, voilà. On sait très bien que l'escalade vient de l'alpinisme et la première femme à avoir atteint le sommet du Mont Blanc, elle l'a fait en 1808, alors que le premier ascensionniste masculin du Mont Blanc, c'était en 1786. Il y a quand même une grosse différence d'année entre la performance masculine, enfin une grosse différence historique entre la performance masculine et la performance féminine. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en escalade, la performance masculine et féminine sont en train de se rejoindre, mais il y a encore des différences. On a tendance à dire que la différence de performance, elle vient du fait qu'il y a des grandes différences physiques, et donc du coup, les femmes seront jamais assez fortes, aussi fortes que les hommes, etc. etc. Et pourtant, moi, je pense vraiment que cette différence de performance, enfin, je pense, en fait, c'est un fait également, elle vient aussi des dynamiques sociales et de l'histoire du sport, et plus précisément de l'histoire de l'escalade. Je vais faire aussi un petit point sur les compétitions, pour donner un exemple. Pendant des années, moi, quand j'étais petite, quand je voyais la compétition, enfin, les Coupes du Monde de femmes, c'était toujours le même genre de voix, très résie, pas très physique, au contraire des hommes, où c'était déjà à cette époque-là des voix très physiques, etc. Et bon, ça, c'est tout doucement en train de changer, mais ça a quand même pris du temps. Je regarde Antoine pour voir si je me trompe un peu, mais, je suis un petit peu... Mais donc voilà, maintenant c'est en train de changer, on est en train de rendre la performance féminine beaucoup plus physique, etc. Et donc on est en train de tout doucement ramener la performance féminine à la performance masculine. On dit aussi, moi je viens de Fontainebleau, et là-bas je fais des sorties effectivement en non-mixité choisie, donc avec Girls in Blue, qui est une association montée par Caroline Sino. Voilà, en extérieur, on dit souvent, et particulièrement à Blot, les dalles c'est pour les femmes et les blocs physiques c'est pour les hommes. Ah mais toi t'es une fille, c'est pour ça que t'es forte en dalles. D'ailleurs, le premier 8A féminin dans la forêt de Fontainebleau, il a été fait, enfin c'est Duel, qui est une magnifique dalle, qui est d'ailleurs extrêmement dure. C'est pas parce que c'est une dalle que c'est plus facile qu'un bloc physique, mais peut-être que si l'histoire de la performance féminine avait suivi l'histoire de la performance masculine, peut-être que le premier 8A féminin aurait été un 8A sur physique et pas Duel, qui est une, je le répète, une magnifique dalle. J'espère que ce sera mon premier 8A. Ça, c'est une aparté, mais bon. Et donc je reviens sur les sorties en non-mixité choisie. C'est hyper important de faire ça pour justement ne pas avoir ce genre de remarque. Ah oui, mais toi, tu peux pas grimper physique, t'es pas assez forte pour faire ça, t'es pas capable de faire ça. Donc ça a un côté aussi... c'est important pour se sentir confiante, parce que pendant des années et depuis qu'on est petite fille, on nous dit qu'on n'est pas assez forte, qu'on ne doit pas avoir l'esprit de compétition, qu'on doit être gentille, qu'on doit être sage, qu'on ne doit pas courir très vite, qu'on ne doit pas avoir de gros muscles aussi. Il y a une injonction au corps qui est hyper présente. On ne peut pas avoir des grosses épaules. Moi, je suis super heureuse depuis un an, je commence à avoir des grosses épaules, mais ça m'a pris du temps quand même d'avoir des grosses épaules. C'est un truc de dingue. Et ce que je veux dire par là, c'est que ces sorties, elles sont importantes pour se sentir bien dans sa propre escalade, pour se sentir légitime et pour se sentir confiante. Mais c'est également important dans le sens où, je l'ai dit tout à l'heure, il y a encore beaucoup de violences issues du système patriarcal au sein du milieu de l'escalade. Et donc le fait de se retrouver en non-mixité choisie, ça permet de ne plus avoir ou de moins avoir, parce qu'on a aussi du sexisme intériorisé, de moins avoir ces violences patriarcales au sein de notre pratique de l'escalade.
Et Bastien, en plus de ton bénévolat à l'association CLIP, il me semble que tu es aussi accompagnateur sportif. Est-ce que tu peux nous dire le rapport à la performance que tu as dans ce métier, et puis est-ce que c'est possible aujourd'hui de politiser ce métier-là? Et est-ce que tu arrives à le faire?
Alors je vais prendre la question dans le désordre. Est-ce que je suis capable de politiser moi personnellement ce métier d'une certaine manière? Oui et non, et donc plutôt non. Mais là où je voudrais rebondir sur ce qui a été dit, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que dans toutes les réponses qui sont faites, et même dans notre pensée commune de qu'est-ce qu'est la performance, C'est hyper biaisé parce que en escalade, à l'instar du marathon ou de plein d'autres trucs, on a la performance, c'est un chiffre, une lettre. Et donc on veut sans cesse se comparer, se comparer aux autres ou à soi-même, parce que la performance, comme disait Antoine, c'est pas forcément être meilleur que son voisin, ça peut être faire quelque chose qu'on n'a pas fait auparavant. Et donc on est tout le temps focalisé sur ce chiffre, mais en fait c'est un piège. Et je pense que, enfin, je vous invite tous à grimper, à réfléchir à autre chose qu'à ce chiffre, parce qu'en fait on peut tous grimper une voie X ou Y, mais on va pas forcément la grimper de la même manière. Et pourtant, si vous et moi, on fait tous les deux un setup, on va demain dire, ah bah ouais, ok, on a tous les deux fait un setup. En fait, non. Peut-être que vous voulez grimper avec beaucoup plus de grâce. Peut-être que vous avez eu, gestuellement, c'était beaucoup plus beau. Et en fait, c'est hyper biaisé. C'est ce que je dis. On se retrouve tout le temps dans cette logique qui, pour le coup, a l'influence de la compétition, du modèle capitaliste, etc. Je pense que c'est pas est indéniable là-dedans. Et on devrait peut-être plus s'ouvrir vers une perception personnel de notre pratique, un peu à la manière des danseurs, où en fait ce qu'on veut, c'est pas être capable en fait c'est de transmettre une émotion, c'est pas d'être capable de mettre son pied derrière la tête ou de faire une roulade comme un tel, ça serait plutôt avec, en fait c'est la notion du style. Est-ce qu'on a complètement, enfin moi je répète tout le temps ça, mais on a complètement perdu ça en escalade. En escalade on regarde que la finalité, faire ton 8A, ton 9A, ton 9C, mais en fait on regarde pas le style. Mais en fait, bah oui, moi mon boulot donc c'est de faire de l'entraînement et d'entraîner des gens pour qu'ils progressent. Et il n'empêche que quand je regarde le haut niveau, je ne peux pas m'empêcher de voir sur deux voies données, je vois la même performance factuellement, mais n'empêche que je ne vois pas du tout la même chose. J'ai des grimpeurs, ou des grimpeuses d'ailleurs, plutôt des grimpeuses, qui grimpent beaucoup mieux que d'autres. Et en fait, ça, on ne le voit pas, on se contente juste de regarder la finalité, le chiffre, la lettre. Voilà.
Christelle, ça t'évoque quelque chose ?
Oui, nous, la performance, en fait, quand on parlait de performance, ça dépend de quoi, de quelles conditions, de qui. Nous, on en a de la performance, mais ce n'est pas du tout celle dont vous parlez depuis tout à l'heure. Moi, personnellement, et j'y reviens, c'est le plaisir. Et des fois, c'est ce que je disais cet après-midi, je prends plus de plaisir deux cotations en dessous de mon max, parce qu'effectivement, j'ai fait une belle gestuelle, j'ai ressenti énormément de choses dans mon corps en me déplaçant. Mais après, ouais, effectivement, quand j'ai commencé, je voulais progresser, effectivement, donc c'était important. Et finalement, je me mettais une pression qui était contre-productive. Ensuite, j'ai eu deux enfants, j'ai arrêté. Et quand j'ai repris, je me suis dit, c'est cool déjà d'être là, j'ai trop de chance parce que ça m'a énormément manqué. Et je me suis dit, maintenant, il faut arriver en haut, quoi. Et en fait, finalement, je ne me mettais plus du tout à pression. Je me disais, fais ce qui t'a manqué pendant énormément de temps. Et finalement, je suis carrément meilleure, mais bien, bien meilleure qu'avant. Et c'était pas du tout le but, quoi. Donc, ça, c'est personnel. Et ensuite, du coup, c'est peut-être aussi pour ça que je suis chez Amasa. Parce que nous, l'escalade, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un outil. Et en fait, il n'y a pas de performance. Alors après, on s'adapte, mais effectivement, les monos qui font partie de l'assaut, la plupart, ils sont issus quand même de la compétition. Ils ont quand même de bonnes compétences parce qu'il y en a certains qui entraînent au CREPS ou en équipe départementale, etc. Et ils ont déconstruit leur enseignement pour trouver des leviers motivationnels des personnes, parce qu'il y en a qui viennent, qui n'ont même pas envie d'être là, qui n'ont même pas envie de faire du sport. Et donc, ils essaient de trouver un côté ludique pour leur apporter un intérêt et aussi pour développer des compétences de vie propres au sport. Et en plus, dans l'escalade, c'est ça, c'est avoir confiance en soi, avoir confiance en l'autre, se dépasser, s'entraider. Il y a effectivement une émulation autour de ce sport qui est quand même incroyable. Et moi, souvent, j'ai vraiment ressenti le fait d'être parvenu en haut grâce à ceux qui étaient en bas. Parce que je sentais qu'ils me portaient, quoi. Et c'est ce qui se passe aussi avec nos bénéficiaires. Et en fait, oui, la performance, c'est de grimper un mur et encore mieux de pouvoir les amener après en falaise, quoi. Le but ultime. Et après, oui, il y a aussi, on essaie d'apporter aussi des compétences. Par exemple, il y a des personnes, des éducs qui nous demandent des compétences d'employabilité. Donc on va essayer de développer, il y a des séances en trois temps. La première, ça va être de la gestion des émotions. Donc en fait, on va les faire directement grimper sur des enrouleurs et leur dire bon, ben, dès que tu ressens l'émotion, ben, concentre-toi sur ton ressenti, comment tu l'accueilles, comment tu le gères. Ensuite, la deuxième séance, ça va être plutôt la gestion des responsabilités. Donc là, on va leur apprendre le 8, le nœud 8, l'assurage et donc effectivement la confiance au partenaire, la confiance en soi. Et après, la troisième, c'est la plus difficile, donc on les prépare, on leur explique la cotation, donc tu vois, juste à la troisième séance. Et c'est dans le but, en fait, de les amener dans le dur pour voir comment ils réagissent face à la difficulté. Donc c'est la gestion de la combativité, donc on voit qu'il y a certains qui vont fuir, donc à faire plein jusqu'à réussir, d'autres qui sont sidérés, qui veulent arrêter, et d'autres qui vont du coup avoir de la persévérance jusqu'à qu'ils y arrivent. Voilà, donc en fait, voilà, encore une fois, on a un peu, surtout les moniteurs qui étaient vraiment dans cette pratique de performance, etc., ils ont déconstruit leur vision de l'escalade. Et nous, voilà, c'est l'escalade, c'est plutôt à Massa, on se veut être une passerelle, un lien entre les acteurs de l'escalade.
Merci Christelle. Tu voulais réagir?
Oui, je voulais réagir. Non, c'est vrai que la performance, elle peut être dans vouloir faire des cotations de plus en plus dures. Moi, j'ai été à fond, dans les années 80. Après le 8A, il fallait faire un 8A+, après le 8A+, un 8B. Et j'étais vraiment dans la recherche de faire des cotations de plus en plus dures. J'avais un corps outil. Je demandais à mon corps, tu vas le faire, le mouvement, parce que moi, je veux faire le 8B. D'accord ? Donc, je ne demandais pas le consentement à mon corps pour pouvoir faire cette voie difficile. J'imposais mon désir à mon corps. Après, c'est vrai que j'ai découvert un corps vecteur dont tu parlais, un corps vecteur d'émotions. Là, en tant que danseur, j'avais plus un corps outil, c'était mon corps, il était là pour pouvoir transmettre des sensations, des émotions, des histoires. Vous voyez, c'est déjà plus la même chose, c'est-à-dire que je suis plus un ouvrier où je demande à mon corps de réaliser un mouvement, où la réussite, c'est la réussite du mouvement. C'est le mouvement lui-même qui devient le plus important. Et ça a complètement changé ma vie quand j'ai rencontré la danse à ce niveau-là. Même maintenant, je suis en train encore de réinventer ma relation à mon corps. Ah ouais, c'est une série de ouf, sa relation avec son corps, avec des épisodes et tout. C'est génial, hein. Et là, je suis en train de vraiment réinventer. Depuis quelques années, j'ai un corps compagnon de cordée. C'est mon premier compagnon de cordée, c'est lui qui décide. Si je le suis pas, accident... Tout ce que tu veux. Donc je suis obligé de le respecter encore plus en prenant de l'âge. Donc c'est lui qui commence à mener ma vie plus que mon désir. Vous voyez, donc ça c'était déjà dans ce rapport à la performance. On peut choisir la performance, non pas dans la difficulté physique, mais dans d'autres styles de difficultés. Ça peut être dans la qualité gestuelle, ça peut être dans une difficulté d'équilibre, une difficulté de recherche de mouvement, une difficulté d'engagement. Quand on était ouvreur au début, on voulait sélectionner les grimpeurs, non pas que sur la difficulté physique, sur la difficulté aussi d'engagement, par exemple. Mais les grimpeurs, ils aimaient pas. Attends, moi, je me suis entraîné pendant un mois, c'est en faisant des tractions. Qu'est-ce que tu me fais, une difficulté en dalle? Ils aimaient pas ça, les compétiteurs. C'est un choix. Moi, en tant qu'ouvreur, je pouvais choisir quelque part le meilleur. Parce que je pouvais choisir sur quoi j'allais le sélectionner. C'est un choix, la difficulté. C'est qu'un choix qu'on a fait aujourd'hui. On pourrait, ça change depuis quelques années en bloc. Il y a des dalles qui reviennent et tout. Mais pendant presque 20-30 ans, il n'y avait plus de dalles. Donc on retrouve d'autres difficultés. Il y a des difficultés multiples. Je voulais aussi dire une chose, c'est que sur notre pratique, quand j'entends, il y a un rapport, bien sûr, de haut et de bas, patriarcal, mais on a la chance d'avoir une pratique qui est vraiment un joyau où c'est le partage qui est notre sommet. Je peux partager avec un débutant une journée d'escalade. Je peux partager ma journée d'escalade avec une personne en situation de handicap. Je peux partager ma journée d'escalade avec une personne qui est d'un autre sexe, avec personne qui n'est pas du même niveau. Vous voyez ? Et ça, c'est génial. C'est pratiquement... C'est hyper rare. Regardez toutes les pratiques de sport et d'activité où on peut pratiquer avec une personne. Elle va aller faire le bloc. Et moi, je vais faire celui d'à côté. On peut partager une journée. C'est ça le plus important. C'est le partage, notre sommet.
Merci, Anton. Au début, la question que j'avais proposée, c'était comment politiser notre pratique de l'escalade. Après quelques discussions, c'est passé à faut-il politiser notre pratique de l'escalade. Du coup, quand même, je voulais vous poser cette question du faut-il, c'est-à-dire, vous, dans votre engagement, qu'est-ce que vous avez l'impression que vous avez à y gagner, voire à y perdre, quand vous développez un rapport critique à votre pratique, et surtout, une critique au modèle dominant. Et peut-être, Sophie, pour commencer, est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés en tant qu'activiste ?
Oui, des difficultés, j'en ai en tout cas rencontré. Je vais du coup aller directement sur cette question. Qu'est-ce que j'ai à perdre quand je politise ma pratique de l'escalade ? Bah, j'ai perdu des mauvais amis. Ça, c'est déjà une chose. J'ai perdu des gens qui ne me suivaient pas dans mes actions, qui ne me soutenaient pas dans mes actions, qui agissaient plutôt en tant que complices plutôt qu'alliés. Donc voilà, j'ai perdu des gens autour de moi. Ça, c'est une chose. Vous allez perdre des gens si vous décidez de vous politiser, de faire de l'activisme et de militer. Ce qui est cool, c'est que vous allez aussi retrouver des gens, vous allez être potes avec plein d'autres gens et vous allez découvrir une toute nouvelle facette de la vie. Et de l'escalade. Bon, ça, c'est mon petit moment, un petit cucul à praline. Mais c'est vrai, finalement, moi, je disais tout à l'heure, personnellement, ce que j'ai eu en politisant ma pratique de l'escalade, ce que j'ai acquis, c'est un équilibre dans ma pratique. Et depuis que je fais ça, je revis sereinement ma pratique de l'escalade et je suis beaucoup plus à l'aise dans mon escalade et je me sens beaucoup plus légitime et je me sens beaucoup plus en colère aussi. Ça, c'est vrai, je suis beaucoup plus en colère qu'avant. Ou en tout cas, je ne suis pas forcément plus en colère qu'avant, mais maintenant, je sais utiliser ma colère. Je sais, j'ai un endroit où mettre ma colère, qui est dans la politisation de ma pratique de l'escalade. Et puis, je crois que tu avais d'autres questions aussi, que j'ai loupées.
Non, c'était ça.
C'était tout ça. Et qu'est-ce que j'ai à gagner ?
Qu'est-ce qu'on a à gagner, ouais. Qu'est-ce qu'on a à y perdre ?
Qu'est-ce qu'on a à gagner de manière collective aussi, c'est important. De nouveau, je reviens encore sur ces différents systèmes d'oppression. Si vous-même, dans la place que vous occupez dans la société, vous ne vivez pas forcément des oppressions. Par exemple, si vous n'êtes pas une personne racisée, si vous n'êtes pas une personne sexisée, des personnes qui subissent le sexisme ou des personnes qui subissent le racisme, si vous n'êtes pas une personne pauvre, tout ça, bah peut-être que dans votre pratique de l'escalade, vous ne vivrez pas d'oppression en tant que telle. Par contre, si ce n'est pas pour vous, faites-le pour vos proches. On reparle, c'est très bien ça, de parler du partage justement. Si c'est un sport de partage, alors on le fait pour ses amis, on le fait pour ses compagnons de cordée et on le fait aussi pour les autres. Et aussi, je vais faire aussi un lien avec les dernières législatives qu'il y a eu en France dernièrement. Je crois que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé en juillet 2024. L'extrême droite était vraiment à nos portes. Et qui dit gouvernement d'extrême droite dit ministre des sports aussi, probablement d'extrême droite, sauf s'il y a une super coalition, mais on n'en est pas encore là. Et qui dit ministre des sports d'extrême droite dit qu'il va y avoir un impact sur nos pratiques également en tant que grimpeuses et grimpeuses. Ça veut dire que les personnes homosexuelles, les personnes trans ne pourront pas pratiquer leur escalade comme une personne privilégiée pourra le faire. Ça veut dire qu'une personne racisée ne pourra pas... pourra peut-être aller grimper, mais vivra beaucoup de racisme et de violence au sein de la communauté grimpeur et grimpeuse. Et ça veut dire peut-être qu'on ne donnera pas... on ne donnera plus de subventions aux associations comme Amasa Climb aussi. Et donc, du coup, c'est aussi... tout ce qu'on gagne, c'est plutôt une belle communauté et on n'a qu'à gagner à politiser nos pratiques, puisque ça permet de créer une belle communauté escalade.
Et Bastien, je voulais te poser une question, parce que tu nous as présenté brièvement Clip, mais est-ce que tu peux revenir sur en quoi cette association est une solution originale au problème du conventionnement? En quoi votre travail il est politique, et peut-être en quoi Clip est différent de qu'est-ce qui se fait ailleurs avec des conventions, des contrats d'entretien fédéraux?
Ouais, je vais faire ça, je vais juste répondre brièvement à ce qui a été dit auparavant. Si je pense que ce qu'on a à perdre, c'est nos privilèges, parce que quand on se regarde voilà, tous, toutes et toutes autour, on est quand même tous blancs, middle class, voire plus. Et si ce qu'on aspire, c'est plus d'égalité, eh ben, on va devoir remettre en question nos privilèges. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Pour répondre à Clip, alors la question de savoir quel modèle différent on apporte, le modèle qu'on a fondé toutes et toutes ensemble, c'est de prendre les choses en main, de ne pas déléguer le... Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Disons que nous, on est un acteur dans une chaîne qui est composé à la fois par le département, à la fois par l'FFCAM qui nous file un gros coup de main, et où on se veut le lien direct avec les propriétaires pour essayer de créer du lien, de se faire connaître dans les territoires, parce qu'en fait, pareil, on se mélange pas. Nous, on pratique l'escalade, mais en fait, on se mélange pas avec les chasseurs alors qu'on utilise le même terrain. Et généralement, on n'est pas d'accord pour des raisons diverses et variées, mais aussi politiques, justement. Et donc nous, notre modèle, c'est celui d'essayer de faire les choses nous-mêmes, entre guillemets, en essayant de faire le travail, pour reprendre les mots de la FFME, de veille des sites. Et là où c'est quelque chose de politique, c'est qu'en fait, ça devient vraiment du concret. On est là à mettre les pieds dans des réunions publiques, dans des rencontres avec des élus, dans des choses qui sont vraiment de la politique locale. Et... par exemple, pour parler en mon nom, qui sont des choses relativement nouvelles que j'avais pas l'habitude de faire.
Et il me semble que aussi ce qui est différent, c'est que vous faites appel à des bénévoles pour faire cette veille.
Est-ce que oui. Alors oui. Ah ça, j'ai pas précisé. Merci. C'est que dans notre entre guillemets modèle, si on peut appeler ça comme ça, déjà nous on est une association collégiale, c'est-à-dire qu'on n'a pas de président ou présidente, on a tous la même responsabilité. Et voilà, donc c'est déjà quelque chose de différent. Et on ne veut pas non plus, on veut pas tomber dans la marchandisation de l'activité au sens de la gestionnaire des sites, pour reprendre les mots de l'FFME. Je laisse juste passer les motos. On n'a pas envie que ça soit des contrats d'entretien qui soient donnés à des personnes habilitées pour gérer les falaises. Parce que les falaises, ici, elles ont été équipées par des gens bénévolement, généralement, ou voire à leurs frais. Et on a peur de, je pense à juste titre, que la gestion des sites tombe dans le carcan de quelque chose de très fédéral, de très normé, de très codifié, qui irait à l'encontre de notre idéal.
Du coup, c'était...
Oui. Et d'ailleurs, petit coup de pub, là ça fait un an qu'on a fait Clip, et il est toujours de bon temps de reprendre votre adhésion, ou de prendre votre adhésion si vous ne l'avez pas fait, pour financer, parce que ouais, alors, je fais petite méga digression, mais quand bien même on n'a pas envie de se financer d'argent et compagnie, on a plein de trucs à payer, du genre des assurances, qui coûtent quand même relativement cher, et... on n'a pas vraiment le choix de ne pas s'assurer pour ce genre d'activité. Donc voilà, si vous avez envie de nous soutenir, de grimper dans les falaises du coin, je vous invite à acheter le topo si ce n'est pas déjà fait, à adhérer à Clip ou à devenir bénévole si vous avez envie. Toutes les mains sont les bienvenues.
Et juste pour préciser, donc, c'était la peur qu'un autre acteur vous remplace s'il n'y avait pas eu l'association.
Non, mais... c'est pas la peur, c'est que en fait les falaises ont été interdites. Je vais pas rentrer là-dedans, mais accident de Vingros, falaises interdites, les propriétaires. Donc les falaises, ils sont sur des propriétés privées. Les propriétaires prennent peur parce qu'ils ont peur d'être inquiétés en cas de problème, accident, chute de pierre, c'est le Vercors, etc. Donc ils décident d'interdire. Parce que c'est toujours plus facile d'interdire que d'autoriser. Et vu que nous, on a quand même envie de faire de l'escalade et de pouvoir partager ce truc-là. On a fait le choix de fonder Clip et, pour résumer trivialement, de faire du lobby qui va dans le sens de, des grimpeurs et grimpeuses.
Parce que toi, en tant que grimpeur local, tu aurais pu continuer à aller grimper sur ces falaises interdites. Du coup, qu'est-ce qui rend cette association utile et peut-être nécessaire? Est-ce qu'elle est...
Ouais, bah alors moi personnellement, j'étais... C'est marrant d'ailleurs que je sois là à en parler, parce que j'étais absolument contre au début. la démocratie, je m'en suis rendu à l'avis de mes copains et copines, mais parce que personnellement, d'un point de vue super égoïste, moi les falaises sont interdites, je continue d'aller grimper, ça change strictement rien. Donc si je suis là, et si on est là, c'est en fait c'est pour vous. Voilà, c'est juste pour qu'on puisse toutes et toutes partager nos privilèges.
Merci. Ça vous donne envie de réagir, Anthony?
Ah bah, ouais, moi je trouve ça bien, je trouve que c'est une façon de se responsabiliser. Je veux dire, dans les années 80, bon, je reparle, on était acteurs de notre pratique. Il n'y avait personne d'autre qui ouvrait, il n'y avait personne d'autre qui inventait la pratique à notre place. On ne consommait pas l'escalade. Et dans ce sens-là, je trouve que des associations comme ça, mais ça peut être aussi adhérer au CAF, à la FFME, qui ont se sentir responsable, pas simplement profiter et consommer. On est dans du collectif. Donc on doit donner, enfin on doit, si on a une part pour nous-mêmes, pour notre plaisir, mais il y a aussi une part pour le collectif. Voilà, ça me semble intéressant. Et peut-être que tout simplement, si on se libère de la réussite, ben on vient faire de l'escalade, on vient plus faire de l'escalade libre, mais de l'escalade libérée. Et là, à ce moment-là, il y a peut-être des nouveaux horizons qui arrivent pour pouvoir développer des nouvelles pratiques. Et pour finir aussi par rapport au fait de politiser, oui, pour moi, ça me semble... je suis très engagé aussi pour politiser la pratique, parce que on cautionne, en allant au sommet, on cautionne l'idéologie de la croissance. On cautionne cette idéologie du toujours plus, de la performance. Donc c'est à nous de raconter des histoires qui montent et qui descendent. On change d'air. On est dans l'anthropocène. On a changé d'air. Il faut qu'on se raconte des nouvelles histoires. C'est pour ça que là, par exemple, en ce moment, je suis en train d'inventer une escalade givrée. On a libéré l'escalade sur rocher du matériel. Ben, j'ai envie de faire la même chose sur la glace. On se libère des outils. Plus de crampons, plus de piolets. Mais ouais! On va rapprocher le corps de la glace. On va grimper à main nue sur la glace. Mais c'est possible, c'est génial.
Pas moi.
On grimpe sur du rocher. Mais si, on grimpe sur du rocher vivant. On est en train... On est en train de... Il faut dire au revoir à la glace, à la beauté du monde qui est en train de fondre entre nos doigts. Il faut arrêter de la frapper. Voilà, on va raconter des nouvelles histoires. On se raconte tous des histoires. Donc il faut qu'on soit moteur de nos récits. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est de raconter des nouveaux récits et de se raconter des nouvelles histoires pour vivre ensemble.
Christelle, tu avais envie de réagir?
Oui, peut-être par rapport à ta question. Donc qu'est-ce qu'il y a à perdre? Nous, pour Amasa, nous, on n'est que gagnants parce qu'on est en rapport avec on est quand même en adéquation avec nos valeurs. Donc voilà, ce qu'on fait, ça a du sens pour nous. Par contre, pour nos partenaires, et notamment les salles privées qui rendent nos actions possibles, parce qu'il faut savoir qu'elles nous offrent, pour certaines, carrément les entrées pour nos bénéficiaires. Eux, par contre, ils ont à perdre de faire ça parce que on amène un public qui est pas forcément, qui a pas forcément les codes de l'escalade et qui peuvent faire fuir leurs clients à eux. Donc c'est vrai que pour ça, on les remercie parce que grâce à ces salles partenaires et notamment The Roof Toulouse qui nous offre des centaines d'entrées par an. Ils nous prêtent du matériel. Il n'y a pas que. Hein. Après, il y a d'autres salles qui nous offrent vraiment des tarifs ultra réduits qui nous permettent du coup de mener à bien nos actions. Eux, ils ont à perdre, oui. Ouais, là, on est effectivement pour répondre à ta question, effectivement, ils prennent des risques.
Est-ce qu'il y a Martin qui est là? Romain, pour faire passer le micro. On va ouvrir les questions au public. Du coup, on a une petite table ronde avec un micro.
Décoinceur.
Voilà, et un décoinceur et décoinceur.
Pour décoincer la parole.
N'hésitez pas à prendre le micro.
T'es prêt, toi ?
Moi, j'ai vu.
Attends, le micro, idéalement.
Si, je pense que c'est ce qu'on a dit en substance, mais a priori pas assez.
Non, mais un intro, ça a été dit, il a expliqué, Tom.
Il y a un rapport d'inclusion, qui peut pratiquer comment ? Je reviens sur ce que j'ai déjà dit, regardons-nous toutes et tous autour de cette table ronde, et on peut s'interroger sur qui nous sommes, et puis en fait, est-ce que en fait, tout le monde est capable de faire de l'escalade ? Donc il y a déjà un versant, en tout cas je parle là pour moi, il y a un versant social, et après il y a un versant politique, il y a le je pense qu'il va aller dans le sens de ta question. Qu'est-ce que l'escalade est en train de devenir aujourd'hui ? La marchandisation de l'activité ? Est-ce qu'on est pour ? Est-ce qu'on est contre ? Est-ce qu'on s'en fout et on ne veut pas politiser le truc ? Moi, personnellement, j'ai un avis, mais je pense qu'il n'a pas sa place ici, parce que c'est peut-être pas celui forcément de Clip. Mais je peux le donner par la suite, si ça vous intéresse.
Dis-moi, j'ai pas entendu la question.
Ça répond à la question ou pas ? Pas assez.
Moi, pour rejoindre aussi Bastien, je crois qu'on a vraiment le même avis globalement, mais je vais juste rajouter un petit chiffre aussi, c'est qu'il y a, pour la question des privilégiés, donc est-ce qu'on a vraiment tous accès à l'escalade de la même façon ? Il y a 63,5% des initiés le sont par un mentor, donc par un ami ou une amie, ou particulièrement par un membre de la famille. Et donc, même s'il semble y avoir une démocratisation de l'escalade, et c'est vrai qu'il y a une espèce de... Enfin, il y a une démocratisation de l'escalade, notamment, on l'observe depuis l'entrée de l'escalade aux Jeux Olympiques, ça reste un sport qui n'est pas populaire, et qui n'a pas accès à l'escalade, c'est les personnes racisées, c'est les personnes... Qui ne peuvent juste pas avoir le temps d'aller grimper puisqu'elles ont, là je parle des femmes et des personnes sexisées qui ont une charge mentale énorme et qui n'ont juste pas l'occasion d'aller grimper. Je pense aussi aux personnes qui n'ont pas les bases économiques pour avoir accès à ce sport qui est quand même un sport qui coûte beaucoup d'argent. Et donc c'est ça aussi, politiser l'escalade, c'est donner accès à tous et à toutes en se posant la question, tiens, en se positionnant nous dans la société, tiens, moi je suis, par exemple, moi je suis une femme cisgenre blanche, et donc du coup, en ce sens, j'ai beaucoup plus de privilèges qu'une femme trans racisée, par exemple. Et à partir de là, se dire, mais pourquoi moi j'ai plus accès ? Parce que je subis moins de violence qu'une personne trans et racisée. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner plus d'accès à la personne qui a moins de privilèges que moi ? Et moi, je trouve ça génial que Bastien en a parlé, mais il faut savoir partager nos privilèges et pouvoir laisser tomber certains privilèges pour pouvoir en laisser plus à d'autres personnes. Et ça passera... Cette question-là, elle passera aussi par la politisation de l'escalade, dans le sens où toute dynamique sociale passe par... Enfin, tous les grands mouvements sociaux sont passés par la politique et passeront encore par la politique. J'ai donné l'exemple d'ailleurs de la montée de l'extrême droite qui serait un frein à l'accessibilité de l'escalade. Voilà. J'espère que ça a un peu répondu à la question.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Mais toi, tu avais... Parce qu'on parle de politique, effectivement, on a déjà fait... Je t'ai vu, là. Mais tu voulais aller dans quelle direction avec ta question ?
On t'entendra pas, Titi, si t'as pas le micro. Poses une question, soit tu passes le micro à quelqu'un.
Il y avait une question à gauche, là, sinon.
Sinon, il y avait une autre question. Ah oui. Merci.
C'est qu'on n'avait pas tout à fait compris en quoi... Enfin, c'était quoi le... On dit politique, on dit politisation, mais c'était quoi les moyens d'eux, tu vois, en fait. Je pense. Mais du coup, tu as re-répondu et c'est très sympa, on a un peu mieux compris. Mais on avait un bug sur le juste... En fait, on fait quoi ?
Anti-capitalisme. 12 lettres. Je sais pas combien il y en a.
Pour un petit mode d'emploi aussi, bah ça, je l'ai déjà dit, du coup, la première chose à faire, c'est se positionner en tant que... individu dans la société, donc ça je l'ai expliqué tout à l'heure, mais il y a aussi le deuxième point de mon mode d'emploi tout à l'heure, j'ai noté écouter les autres, écouter les personnes concernées, et puis le troisième point, c'est agir et militer, et y aller quoi, et agir en tant qu'allié et pas en tant que complice.
Je pense qu'on peut dire qu'on parle de politique à partir du moment où on ouvre la bouche. Peut-être que ça répond à la question de Titi et Nico. Mais moi, j'avais besoin de... Enfin, j'aimerais avoir une réponse un peu plus développée sur quelque chose que vous avez dit un peu tous, chacun votre tour. Mais en fait, comment, dans un milieu, on est tous à peu près alternatifs, est-ce qu'on peut se sentir anti-capitalisme et à l'aise avec la notion de performance, quand au final, être performant, il s'agit d'augmenter un capital gestuel, un capital force, un capital force à doigt, contrepointe. Voilà. Est-ce que vous avez des éléments de réponse pour me mettre un peu plus à l'aise ?
Bah déjà bon, on en discutera peut-être dans un autre cadre, mais la question du capitalisme, il faudrait déjà la définir, et c'est peut-être la propriété des moyens de production. Du coup, en fait, on pourrait imaginer, j'ai pas envie de le faire, et en fait, je te rejoins, on pourrait imaginer être dans une logique de performance et quand même être anticapitaliste. Mais c'est plus une question personnelle et une question, en tout cas à mon sens, et une question d'ego. Et ça a été dit en substance par je sais pas qui d'ailleurs tout à l'heure, mais c'est plus une question d'ego, c'est un rapport personnel à notre performance. Et en fait, un peu ce que disait Christelle, si les gens avec qui elle bosse ou elle, personnellement, juste être là et être dehors, c'est déjà une victoire, tu vois, c'est déjà une performance. En fait, ça suffit à soi-même. C'est nous qui avons décidé que il faut faire des 8A, il faut les faire vite, il faut faire ci, il faut faire ça, tu vois, c'est... Alors ouais, il y a des injonctions permanentes d'une société consumériste à aller plus haut, plus vite, plus fort, machin, mais en fait... Nous, on peut se considérer victime, mais en fait, d'une certaine manière, on est acteur. On a décidé que c'était ça, ce qu'on voulait. Et en fait, je pense qu'on peut renverser le paradigme, si on a envie.
Je sais pas si ça répond à ta question.
Ouais, c'est un choix arbitraire, du coup, d'écarter.
Ouais, après, c'est une question d'imaginaire. On peut... un peu, alors je sais pas, moi j'ai pas du tout envie d'aller grimper sur de l'eau gelée, mais on peut demain décider, c'est pour la blague, hein, mais on peut changer d'imaginaire, on peut demain décider que, moi j'ai tout le temps cet exemple là, à l'instar du skate, alors maintenant c'est au JO et du coup c'est devenu un sport et ça s'est perdu, mais entre deux figures, c'est la même figure, c'est la même réalisation, sur le plan de la performance c'est la même chose, et en fait il y a une vraie notion de style qu'on doit retrouver dans d'autres activités de glisse, etc. Il y a une vraie notion de style entre deux mecs ou deux nanas qui font la même figure, ou l'un et l'autre. Et bien en fait, on voit pas la même chose alors que c'est la même chose. Et bien en escalade, on pourrait peut-être aller vers ce genre de choses. Réfléchir à la manière dont on grimpe.
L'escalade telle que tu la pratiques, telle que chacun d'entre nous la pratique, il y a comme une éthique collective. Et après, on a ses propres éthiques, ses propres règles. Et ce qui est incroyable dans notre pratique, c'est qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous donner nos propres limites et nos propres règles. Tu peux grimper comme tu veux. Tu peux grimper libéré du sommet. Tu peux te libérer de la performance. C'est pas facile dans la société de la croissance. C'est pas facile du tout, c'est déjà pour moi une forme de résistance d'aller en falaise et tu t'encordes avec le monde et tu vois ce qui se passe, tu attends l'appel de la voix, tu partages ton moment avec la personne, tu lui dis pas comment il faut faire, elle va inventer avec son corps la solution avec la partition minérale. Déjà, se libérer de la réussite et de la cotation ouvre un champ de possibles incroyable. Pour moi, cette base-là, elle m'a vraiment changé ma façon de grimper. Je ne fais que du plaisir. Je ne me compare pas à la séance d'avant. T'imagines si je me comparais à mes jeunes années, mais je serais dépressif encore. Parce que je ne pourrais jamais faire ça. Donc, c'est dans la façon de réinventer sa pratique et qu'on a la chance d'avoir personne d'autre que nous-mêmes qui nous disent comment grimper. Dans tous les sports, oui, il faut suivre des règles et tout. Ça, c'est génial. Invente ta propre façon de grimper. Invente ta signature de grimpeur.
Et nous, on a une autre question. Vas-y, réponds Christelle. Ouais, après, on a une question là-bas.
Merci pour les réponses. J'aimerais que ce soit un point de vue qui soit plus partagé encore dans notre communauté. Merci.
Ah oui.
Du coup, nous, c'est carrément ça. Nous, en fait, notre challenge, c'est de grimper autrement. Et d'ailleurs, à Massa, j'ai oublié de le dire, mais en fait, ça veut dire ensemble en occitan. Ça se prononce Amasso, mais ça veut dire ensemble. Donc, Amasa Climb, ben, c'est du coup grimper ensemble. Et voilà, c'est le seul but de notre asso. Et effectivement, nous, c'est notre choix et il nous convient. Et à aucun moment, encore une fois, on parle de compétition. Mais après, je pense qu'il faut accepter que aussi l'être humain est fait de contradictions et qu'on ne pourra jamais faire tout parfaitement comme un fil et se dire, bon, ben voilà, c'est l'accepter, quoi. Accepter comme on peut accepter aussi voilà, que l'autre pense différemment de nous aussi, sans être agressif, sans se dire, tiens, mais c'est, voilà, c'est quand même un débile ce qu'il dit, mais non, il a peut-être ses raisons aussi, quoi. Et comme tu disais, c'est essayer de le comprendre, et pour comprendre, ben, il faut écouter, quoi. Partager, et puis s'il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Hein. Voilà, on ne détient pas la vérité, et la contradiction, ça fait partie de l'être humain, quoi.
Moi, je voulais juste rajouter un truc, c'est qu'on fait de l'escalade libre. Mais il y a quand même vachement de règles, hein, pour un truc libre. Pas tirer sur les poings, pas mettre le pied, le machin. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus.
Ouais. Et pour revenir sur les contradictions, c'est hyper intéressant parce que souvent on utilise cet argument comme une fin en soi. Ah oui, mais moi je continue à prendre l'avion pour aller à Rockland tous les ans, mais pourtant j'ai envie d'être écolo, mais tu sais quoi, c'est mes contradictions d'humain. Et en fait, faut pas prendre ça comme une fin en soi, il faut plutôt prendre nos contradictions, faut plutôt les prendre comme une manière de questionner nos pratiques et de remettre en question nos pratiques.
Ouais, c'est ça, se remettre en question, mais je veux dire, c'est pas une finalité, c'est-à-dire c'est pas parce que aujourd'hui on va prendre l'avion qu'on le prendra jusqu'à la fin de notre vie. Il faut pas, en fait, il faut accepter que l'autre fait le maximum, qu'il en est conscient déjà, ça c'est une grande force, et après de laisser le temps du cheminement pour voilà, parvenir à s'améliorer, quoi, aussi.
Ouais.
C'est dur, ouais, c'est quand on est formaté depuis l'enfance et les générations passées, parce que là on nous sensibilise beaucoup plus, mais bon voilà,
oui, tout à fait.
Avant c'était, on parlait pas du tout de ça, quoi.
C'était aussi pour dire que j'ai des contradictions n'est pas une excuse.
Non.
Et il faut justement. Mais je suis d'accord avec tout à fait tout ce que tu dis. Hein, c'était juste un ajout, justement.
En fait, pour moi, c'est de faire le mieux possible, se remettre en question sans arrêt, et après donner le meilleur de soi-même, et toujours évoluer. Voilà, l'être humain, il bouge tout le temps, quoi. Enfin, heureusement.
Alors, bonjour, oui. Et merci, c'est très intéressant. Donc j'ai entendu le terme de viol tout à l'heure, et effectivement, pour moi qui ai pratiqué l'escalade dans les années 90, début 2000, souvent j'ai eu l'impression de voir des falaises se faire violer, ou la nature se faire violer, c'est-à-dire que je voyais des personnes qui en fait étaient uniquement dans ce que vous dites, dans la performance, dans quelque chose de brut, pas justement regarder la falaise, essayer de la comprendre, essayer de se faire accepter. Et pour moi qui vis en Ardèche, y a quand même une question que je me pose, c'est que l'escalade, tout comme le canyoning, tout comme d'autres sports qui touchent la nature, en fait, on est quand même en train de la détruire. Et en Ardèche, ça devient assez catastrophique. Et là, je vois que vous n'en avez pas du tout parlé. Et je pense que là aussi, il y a peut-être des questions à se poser. et aussi une politisation à avoir par rapport à notre pratique de ces sports.
Tout à fait. C'est vrai que j'ai parlé de consentement. Pour vous rappeler, avant, on ouvrait du bas. On ouvrait les du bas et on était là que de passage. On mettait les points d'ancrage où on pouvait. Et c'est vrai qu'avec l'escalade libre, on a, avec cette nouvelle idéologie éthique, on a ouvert du haut. On a préparé le rocher à être grimpé. Pour nous, c'était on préparait, on offrait la voie à la communauté des grimpeurs. Mais pour la préparer, bah, c'est vrai qu'on l'aseptisait complètement. On brossait tout le lichen, on enlevait toute végétation, on nettoyait les prises. Et donc, c'est vrai que ça a été une vraie transformation. On a un peu transformé la falaise pour qu'elle devienne grimpable et qu'on puisse y faire, y réaliser nos désirs. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me repose la question, quand je suis ouvreur, est-ce qu'il faut que j'enlève cette petite branche ? Est-ce qu'il faut que j'enlève ce lichen-là ? Je me pose déjà beaucoup plus de questions que dans les années 80, dans mon rapport à la falaise. C'est vrai que j'ai eu un rapport à la falaise peut-être au début, mais ça vient aussi de nos lois. Notre loi, elle dit que la rivière, comme la falaise, c'est une chose. Vous vous rendez compte ? C'est comme un gymnase. Déjà, il faudrait peut-être changer la loi aussi pour que la rivière et la falaise, ça ne soit pas une chose, mais que ça soit une entité à part entière. Donc déjà, là, on a aussi, même au niveau de la loi, beaucoup de progrès à faire. Et nous, en tant qu'ouvreurs, quand on va dans une falaise, quel est notre rapport à cette nature qui n'a jamais été touchée en général auparavant, de quelle relation j'ai en tant qu'être humain avec cette partie qui n'a jamais été souillée, parce que déjà à partir du moment où on la touche, c'est déjà trop tard.
Il y avait d'autres réaction sur,
oui, moi je suis d'accord avec l'écologie. On a un rapport complet de prédation sur le milieu naturel qui est une contradiction totale, qui est en contradiction totale avec, je pense, les idéaux écologiques qu'on partage toutes et tous ici. Aussi parce que ça nous fait hyper du bien de grimper et du coup on est prêt à fermer les yeux sur plein de choses, que ce soit prendre notre bagnole pour y aller ou massacrer ce petit buis ou cette petite plante là. Parce que ça nous procure un peu de dopamine. Et c'est une vraie contradiction, et je pense... Enfin, j'ai pas plus de réponse, si ce n'est qu'être tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Et qu'il faudrait y réfléchir et creuser ce truc-là pour essayer de trouver un équilibre.
Moi, j'ai une remarque qui va un peu dans le sens de ces interventions. Moi, je viens pas du monde de l'escalade. Je fais partie, je pense, des rares de cette table ronde à ne pas faire d'escalade. Non. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un peu un consensus là sur les discussions depuis tout à l'heure, où donc j'ai un peu envie de lancer un peu un pavé dans la mare aussi de, bah, je ne pratiquant pas l'escalade et venant un peu du monde de l'écologie et ayant découvert du coup les falaises par justement la faune et la flore qui l'habitent. J'ai remarqué aussi que c'était, pour avoir beaucoup d'amis qui pratiquent ce sport, que c'est pas forcément toujours facile d'avoir en tout cas un accueil de remise en question sur la pratique, sur notamment les questions environnementales, parce que du coup, j'ai remarqué que c'est souvent un public qui, de par la pratique et le fait d'être systématiquement dans le milieu naturel et du coup de connaissance de la falaise, des fois, n'est pas forcément le public le plus facile à accueillir une remise en question de sa pratique et de fois accepter qu'on n'est pas forcément compétent sur tous les plans. Donc certes, les gens qui font de l'escalade sont plus compétents que n'importe qui sur la connaissance des falaises, du calcaire. Seulement, la faune et la flore, c'est aussi, par exemple, c'est un sujet, mais parmi d'autres, qui est très complexe et que tout le monde ne peut pas comprendre. On n'est pas tous spécialistes de tout. Et du coup, voilà, je voulais appeler un peu d'humilité et dans le monde de l'escalade, que je ne pratique pas, mais je suis aussi témoin. Enfin, j'ai beaucoup de témoignages d'amis qui vivent justement des systèmes de domination et d'oppression dans cette pratique, dans le Royaume Vercors notamment, et que du coup, je pense que ça peut être chouette d'éviter de se revendiquer trop déconstruit sur à peu près tous les sujets, et essayer d'aller vers une vraie critique constructive et collective pour que les personnes qui pratiquent et qui ne pratiquent pas puissent justement habiter un territoire de la manière la plus juste et égalitaire possible, que ce soit pour entre humains ou entre humains et non humains.
Merci pour ton pavé, qui est très, très juste. Je te rejoins tout à fait sur tout ce que tu dis. Et je ne vais pas rajouter d'autres trucs parce que je suis d'accord. Peut-être justement appeler à toujours cette remise en question, ne pas se dire qu'on est meilleur que d'autres parce qu'on fait de l'escalade. C'est pas un sport incroyable, enfin c'est chouette, mais c'est pas si incroyable que ça. Sorry, mais il y a plein d'autres chouettes choses sur la Terre et on n'est pas plus stylé que quelqu'un parce qu'on monte à 200 mètres de haut. J'avoue, c'est stylé, mais c'est pas mieux que d'autres pratiques et on n'est pas mieux que d'autres personnes parce qu'on fait ça. Donc, voilà.
Moi, je voulais poser une question sur la surfréquentation des sites, parce que ça me semble être très important. Enfin, moi qui suis une locale, une fille de Bioux, de la falaise de Bioux, donc je suis née là-bas, c'est vrai que j'ai vu un essor considérable à Bioux. Et moi, en tant que locale, en tout cas, ça me pose des problèmes de, je dirais, d'habitante, parce qu'il faut partager la nature avec les grimpeurs, avec les cavaliers, avec les gens qui font du VTT, maintenant qui font aussi de la course à pied. Voilà, c'est des sites qui sont quand même très sensibles. On est dans un parc régional, donc heureusement qu'on est dans un parc, parce que ça c'est plutôt bien, il n'y a déjà pas une urbanisation à outrance. Mais voilà, moi je me dis, alors l'escalade qui arrive au JO, où maintenant il y a une communauté de grimpeurs vachement importante, c'est pas les mêmes à la ville qu'à la campagne. Voilà, je me dis, c'est une prise de conscience aussi, voilà, par rapport à des sites comme ça majeurs, et pour que vous puissiez tous continuer à grimper. Voilà, parce que c'est vrai que les pouvoirs publics se préoccupent de tout ça. On voit que dans les Calanques, par exemple, aujourd'hui, en plein mois de juillet, bah, il faut réserver pour aller marcher. Donc voilà, que vont devenir les falaises, les voies d'escalade? Voilà, je me pose des questions.
Ouais, en substance, la question, c'est comment gérer l'affluence? Bah, il y a deux choses. Est-ce que c'est problématique? Oui, évidemment, ça l'a déjà été, ça le sera. Enfin, ça l'est toujours et ça le sera. Est-ce qu'on veut tout interdire? Est-ce qu'on veut un modèle nord-américain avec des autorisations, etc.? Moi, je pense pas, parce que pour aller dans le sens de tout ce qu'on a dit depuis une heure, si on veut que tout le monde puisse pratiquer, mais qu'en fait, après, il nous faille des permis pour aller comme au sommet du Mont-Blanc ou à certaines périodes, ou en Himalaya, je pense pas qu'on résoudra le problème. Enfin, la question de savoir qui peut aller pratiquer. Et moi, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je n'ai pas la solution miracle pour gérer l'affluence, si ce n'est que je pense que la manière dont on équipe les voies et l'aseptisation de nos sites dit beaucoup de choses de l'affluence. Et c'est peut-être ça qu'on doit creuser. C'est en fait notre rapport à la norme, à la sécurité. Voilà.
Juste avant la prochaine question, il nous reste pas beaucoup de temps. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre toutes les questions du public. Et n'hésitez pas, prenez le micro. Et puis après, une fois qu'on aura pris toutes les questions, vous limitez pas, on verra si on arrive à y répondre.
Du coup, moi, je voulais revenir. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu transversal à tout ce qu'on a dit ce soir, c'est la marchandisation de l'escalade qui est liée au modèle capitaliste et qui nous impose, tu as dit tout à l'heure qu'on était libre de réinventer notre pratique, et moi je pense que ça c'est un privilège d'être libre de réinventer sa pratique, parce qu'aujourd'hui notre pratique elle est dictée par la médiatisation, par les salles d'escalade, par les entreprises qui font notre matériel. On va grimper avec tel matériel, on va grimper tel bloc qui a été ouvert par telle salle, c'est tel style, c'est tel mouvement. Et du coup je voudrais, enfin, moi la question que je me pose c'est comment on lutte contre cette marchandisation qui aujourd'hui va oppresser notre sport, nos milieux de pratique, qui va engendrer une surfréquentation des sites et du coup des problèmes environnementaux. Et du coup, pour moi, la question centrale, elle est là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces entreprises privées, des fédérations qui poussent derrière ces entreprises privées, comment on s'organise collectivement contre cette marchandisation-là, et je pense que c'est là qu'il faut qu'on s'axe, quoi.
D'autres questions avant qu'on réponde?
Bonjour, c'était juste pour savoir, il y a eu une petite. T'as parlé de clip, comment on peut faire pour y adhérer? Pour soutenir les alors, falaises du coin.
J'ai pas précisé ce truc?
Non.
Clip, clipe.jimdo, J-I-M-D-O.site. Ouais, et vous tapez clip, Royan-Vercors, sur votre moteur de recherche préféré, non Google, vous allez le trouver.
Super, bonne question. D'autres questions?
Oui. Moi, je parle de la part des mauvais grimpeurs. Donc, du coup, en fait, ce qu'on fait pas de performance, c'est qu'on s'en tape parce qu'en fait, notre combat, il est contre la peur.
Voilà.
Donc, celle-là, tu l'as dans un 9C ou tu l'as dans un 5A ou tu peux l'avoir où que tu veux, quoi. Et c'est, j'entends des fois parler de performance et de, ouais, putain, c'est nul parce que en fait, les femmes, ils sont arrivées à faire un 9A après les hommes. Et en fait, moi, quand je regarde les compétitions, je regarde plutôt les femmes grimper. Parce que moi, le truc physique d'être un bourrin et faire que de la force, bah, si je veux ça, c'est de l'esportif. En fait, c'est de la gymnastique. Ouais. Je m'en branle, en fait. Donc du coup, en fait, je suis désolé, mais ça m'a dérangé un peu le truc. Ouais, j'arrive à avoir des grosses épaules et du coup, je me sens mieux. J'ai dit, tant mieux pour toi, hein. Mais j'en ai un peu marre du bodybuilding dans la grimpe. Mais il y a quand même un truc, on parle de politisation, et ça on ne se rend pas compte, mais en fait apparemment on doit être maigre, on doit avoir des grosses épaules, et tout à coup on a un modèle qui est en train de s'imposer comme un uniforme qui est le corps du grimpeur. Mmh. Et ça me casse les couilles. Mmh. Je suis désolé. Et l'entendre quand on parle de sexisme et tout ça, en plus me dire, bah en fait nous on veut être aussi cons que les hommes. Tu vois, dans ce sens-là, je suis désolé. Hein. Et c'est pas contre toi. Et j'entends ta lutte, elle a un sens, elle est cool. Mais c'est en fait, on tombe dans notre propre piège et on se rend pas compte de ça. Donc en fait, si on veut parler de politisation, d'accord, on parle de politisation, mais tombons pas dans les erreurs à revendiquer. C'est pas parce qu'on revendique les privilèges des autres ou ce qu'on nous a imposé comme un. En fait, c'est. Moi, je suis pauvre, mais je veux une Lamborghini. Donc, je veux avoir le droit d'avoir une Lamborghini. Non, c'est con avoir une Lamborghini. Déjà, de base, en fait. Donc, peut-être il faut se poser les bonnes questions. Je ne sais pas. Après, oui, il y a un problème avec la grimpe, en fait. C'est, ouais, les JO, on aimerait bien que... Et tout ça, patati, et que tout le monde vienne grimper et tout. Et la question de combien de gens vont aller dans les falaises, ça, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on va faire, en fait? C'est plutôt, il va falloir faire du indoor, en fait. Plein d'indoor, parce que si on va tous sur les falaises à un moment donné, si chacun oublie un papier sur la route, en fait, même involontairement, en fait, si t'as 100 000 personnes, ça fait 100 000 papiers, quoi. Donc ça commence à faire un gros souci. Ça, c'est une vraie politisation pour moi, en fait. Le reste de la politisation qu'ils ont parlé avant, je suis désolé, juste un petit truc. Ça, on peut l'avoir dans les autres milieux, ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais ce qui concerne nos sports, en fait, c'est comment on remet pas en question, en fait, ce qui est, moi, les gens qui m'ont montré à grimper, c'était le jeu, en fait, c'était le, comme il disait, moi j'adhère complètement, c'est le partage, en fait, c'est, on te pousse, on te soulève et on te fait faire un truc que tu pensais que tu n'étais pas capable de faire. Et c'est ça qui est cool, parce que du coup, en fait, la peur, elle te bloque tous les jours dans la vie quotidienne, et la grimpe, ce qu'elle te donne, c'est le pouvoir de te rendre compte que ton cerveau, il est en train de te mentir tout le temps, et donc dépasser cette peur et ce blocage pour aller faire des actions. Donc si tu veux aller militer et tout ça, il y a beaucoup de fois que tu vas avoir de la peur. Mais tu peux toujours aller vers la grimpe et dire, ouais, mais dans la grimpe c'était pareil, j'avais peur, mais je l'ai fait quand même. Et c'est passé. Et dans la militance, c'est un peu la même chose, en fait. Donc j'adore tout à fait, il faut politiser le milieu, mais peut-être avec les bonnes questions dans le milieu, en fait. C'est tout, en fait.
Merci. Encore des questions? Allez-y, hein, vous censurez pas. C'est bon, c'est votre dernière chance. Hein. Vraiment, on est serré sur le timing parce que il y a un spectacle qui s'appelle Happy Apocalypse to You, qui, à ne pas louper, je pense qu'il sera bien, qui commence dans 3, 4, 5 minutes sous le chapiteau. Et moi, ce que j'avais envie de vous demander pour conclure, c'est de partager brièvement en une phrase, donc de ne pas répondre aux questions qui ont été posées, mais de partager brièvement une alternative concrète en grimpe ou une utopie par rapport à ces questions-là qui vous fait rêver, que vous avez envie de partager. Sauf si c'est trop dur, vous répondez à la question.
Bah, vous pouvez rêver votre escalade avant de grimper. Et pouvez grimper et après rêver de ce que vous avez grimpé.
Moi, je vais répondre à la première question, c'est ça mon joker. Je pense que c'est, je ferai un parallèle avec la musique, on peut juste écouter la radio ou on peut aller poncer le fond de l'underground et il y a des trucs super alors que ce qui surnage au-dessus et ce qu'on voit et ce qu'on entend, c'est de la merde. L'escalade, en fait, on peut trouver notre bonheur partout, il faut juste aller le chercher. Et il y a plein de pratiques qui sont loin des milieux de consommation, même de l'affluence. Enfin, faites du trad, si vous voulez voir personne, il n'y a personne. Voilà.
Ben, oui, du coup, moi, ça serait ben, s'écouter soi-même, écouter les autres et essayer d'avancer ensemble, comme on peut.
Oui, ben, moi, je suis d'accord. Hein. Je rêve d'un milieu, pour le moment, au sein de ma pratique grimpe, je ne me sens pas forcément toujours en sécurité, je ne me sens pas forcément toujours si bien avec les autres, même si j'aimerais beaucoup partager aussi, mais parfois je ressens des violences, qu'elles soient sexistes ou d'ordre sexiste ou d'ordre sexuel. Et l'utopie, c'est juste que tout le monde puisse grimper ensemble et que tout le monde comprenne aussi qu'il existe des violences et des discriminations et que c'est important de lutter contre ces violences et ces discriminations et que tout le monde nous rejoigne dans la lutte. Voilà.
Antoine, finalement ? Non. Désolé.
Finalement, l'escalade libre, c'est tout un poème. C'est quand vous allez grimper, de quoi vous allez vous libérer ? Et peut-être on est vraiment dans liberté, égalité, fraternité, mais moi j'ai plutôt tendance à dire fraternité, égalité, liberté. La liberté, elle est au service de la fraternité et non l'inverse.
Fraternité et sororité quand même. Je dirais même plus adelphité, mais bon.
Bon ben, bonne soirée et bon camp 4 à vous. Merci d'être venu.
Merci.
Et il y aura des films vachement politiques ce soir, sur la grimpe notamment. Voilà.
Merci à Bastien, Christelle, Sophie, Antoine et à Tom qui a organisé cette table ronde.